les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Conakry, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre les djihadistes dans le Sahel. Au Mali, alourdissement du bilan de la récente attaque contre le camp militaire de Boulkessi dans le centre du pays. On estime maintenant à 40 le nombre de militaires maliens tués après la découverte des corps de deux autres soldats portés manquants. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré fait le point.
Camp Fort 11 de Boulkessi, dans les ratissages de son périmètre immédiat, hier, les corps de deux soldats maliens morts ont été découverts, ce qui porte à 40 le nombre de militaires tués. Ils ont été inhumés sur place. Avant ces ratissages de la force spéciale, la libération du camp de Boulkessi a été possible grâce à une coordination des efforts entre les FAMA et les forces étrangères. Général Abdraman Babi, chef d'état-major général adjoint de l'armée de terre.
Et dire que dans le cadre de notre action de lutte contre le terrorisme, les forces armées maliennes, l'opération Barkhane et la force conjointe du G5 Sahel, nous allons continuer à travailler ensemble pour effectivement neutraliser les groupes terroristes sur le territoire. Les opérations vont se poursuivre dans le cadre de l'opération Dambé pour rechercher les ennemis par rapport à des endroits d'intérêt qui sont déjà identifiés et qui sont en cours.
Les opérations continuent. L'armée malienne a l'intention de rester à Boulkessi et faire tout pour mettre en place les moyens humains et matériels nécessaires. Il est à signaler que les FAMA ont essuyé leur plus grande perte depuis des années dans les deux attaques menées par des djihadistes le 30 septembre et le 1er octobre à Boulkessi et Mondoro, près de la frontière de Burkina Faso. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Toujours concernant la lutte contre les djihadistes dans le Sahel, dans le nord-est du Nigeria, 112 écolières enlevées par les islamistes à Chibok il y a 5 ans et demi n'ont toujours pas été retrouvées. Le mouvement Bring Back Our Girls, Ramener nos filles, qui se bat pour la libération des captives, a manifesté le week-end dernier à Abuja pour marquer les 2000 jours de détention des jeunes filles. Objectif, attirer de nouveau l'attention des autorités dans la capitale fédérale sur leur sort. Le point avec notre correspondant sur place, Gilbert Tamba.
Ils étaient plus d'une centaine d'activistes et certains parents des écolières réunis à la place de l'Unité à Abuja pour réclamer une fois de plus la libération des 112 filles. Les combattants de Boko Haram avaient pris d'assaut l'école secondaire publique pour filles à Chibok dans l'état de Borno le 14 avril 2014. Plus de 200 filles sont enlevées, mais 57 des filles se sont échappées et ont retrouvé leur chemin à la maison. Le gouvernement fédéral a ensuite négocié avec les ravisseurs qui ont libéré 107 filles, laissant 112 autres en captivité il y a de cela plus de 2000 jours. Depuis, les écolières sont devenues le symbole des victimes de l'insurrection de Boko qui ravage le nord-est du Nigeria. Pour marquer les 2000 jours de captivité, les activistes du groupe Bring Back Our Girls, créé pour lutter pour la libération des écolières, ont exposé plus de 112 paires de chaussures portant les noms des écolières disparues. Florence Ozo est membre du groupe.
Le travail du gouvernement est de protéger et de sécuriser ses citoyens lorsque des incidents pareils se produisent. Et le travail des citoyens est de rassurer que le gouvernement n'oublie pas son travail. Et c'est ce que nous faisons.
Les parents des 112 écolières de Chibok déplorent que le gouvernement fédéral n'ait pas réussi à libérer les filles enlevées il y a plus de 5 ans. Tunde Adegbeju est venu exprimer sa préoccupation.
2000 jours, cela fait 5 années, 6 mois que les filles ont été enlevées. Cet enlèvement signifie qu'il y a eu des sérieuses défaillances. 112 filles, si ces filles étaient des filles d'un gouverneur, par exemple, ou d'un haut cadre du cabinet ministériel, toutes les agences de sécurité seraient mobilisées pour les retrouver. Vous ne pouvez pas dire que c'est parce que leurs parents sont pauvres que vous n'allez rien faire.
Certains parents des écolières portés disparus ne sont plus en vie. D'autres sont malades et certains sont traumatisés par l'absence de leurs enfants. Le président nigérian Muhammadu Buhari a toujours déclaré que le gouvernement restait mobilisé pour parvenir à leur libération. Mais les parents attendent encore de voir la promesse du gouvernement se réaliser. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest toujours. politique au Bénin. Après des mois de crise politique dans le pays, le dialogue voulu par le président Patrice Talon, accusé de dérive autoritaire, devrait s'ouvrir ce jeudi en l'absence des principaux partis d'opposition et de la société civile. Le programme de la rencontre, censé durer jusqu'à samedi, reste flou, mais le gouvernement a été clair sur un point précis. Il ne s'agit en aucun cas d'une nouvelle conférence nationale, comme celle de 1990, qui a mis fin au régime communiste de Mathieu Kérékou et insuffler un vent démocratique dans le reste de l'Afrique francophone. À noter que la main tendue du pouvoir, qui avait promis dès le mois de mai de rassembler les différents courants politiques après des semaines de tensions, est vue par beaucoup d'observateurs comme un non-événement. En Guinée, le Front national pour la défense de la Constitution, qui regroupe plusieurs partis d'opposition ainsi que des syndicats et des membres de la société civile, a appelé à manifester à partir du 14 octobre contre l'ambition prêtée au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Les détails avec Bagassi Koura.
Dans une déclaration publiée hier à l'issue d'une réunion extraordinaire, le FNDC s'est réjoui, je cite, de n'avoir pas pris part à la mascarade déguisée sous le label de consultation qui n'était qu'une nouvelle manœuvre dilatoire destinée à servir d'alibi pour légitimer le processus de coup d'État constitutionnel entrepris par le pouvoir guinéen. Fin de citation. Dans ce texte, il lance un appel à la mobilisation de tous les Guinéens à partir du 14 octobre à travers des manifestations républicaines. Alpha Condé, dont le deuxième mandat s'achève en octobre 2020, a souvent contesté la pertinence de la limitation du nombre de mandats en Afrique, 2 maximum en Guinée. Début septembre, il a chargé son premier ministre Ibrahim Kassori Fofana de conduire des consultations sur une possible révision de la Constitution qui ont été boycottées par les principaux partis d'opposition. Depuis New York, à la fin septembre, le président Condé a appelé les Guinéens à se, je cite, « préparer à un référendum et des élections », mais n'a rien dit sur son éventuelle candidature.
Le Rwanda a annoncé ce mardi avoir expulsé un missionnaire évangélique américain dont l'église et la radio avaient été interdites en 2018 en raison notamment de ses propos sur les femmes. Le pasteur Greg Schouf les avait qualifiés de démons et de prostituées. Le missionnaire américain a été expulsé vers les États-Unis lundi soir, peu après son arrestation avec un de ses fils, qui a été, lui, remis en liberté, a déclaré François-Régis Gata-Raïa, directeur général des services d'immigration du Rwanda. Selon le haut responsable rwandais, Greg Schouf a dû quitter le pays parce que son permis de travail avait expiré et que Kigali estimait maintenant qu'il n'y avait plus de raison qu'il reste au Rwanda, vu que son église et sa radio avaient été fermées dans le cadre d'une mesure de fermeture de plus de 700 sectes évangéliques. Le missionnaire américain et son fils avaient été appréhendés hier au début d'une conférence de presse au cours de laquelle il entendait dénoncer ce qu'il a appelé les pratiques païennes du gouvernement rwandais. Le pasteur Schouf était au Rwanda depuis 2003. Mouvement de contestation en Algérie maintenant. La justice algérienne multiplie les poursuites contre des journalistes et des militants partisans de la contestation, ce que dénoncent des ONG citoyennes et de défense des droits de l'homme. Les précisions d'Irénée Herman Ongo.
Journaliste indépendant et militant de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, Saïd Boudour a comparu hier devant le parquet d'Oran à l'ouest d'Alger pour un écrit sur Facebook. 5 militants du rassemblement Action Jeunesse ont été placés dimanche en détention provisoire, a dénoncé Abdelhab Fersaoui, président de cette association citoyenne. Ils sont inculpés d'incitation à attroupement et d'atteinte à l'intégrité et l'unité du territoire, passible de 10 ans de prison, a-t-il précisé. Mais pour la défense, le dossier est vide, c'est un procès purement politique. Selon un de leurs avocats, Maître Abdelhak Kamela, les 5 militants ont été arrêtés vendredi dans un café après la 33e manifestation hebdomadaire d'affilée. Pour Saïd Sali, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, la justice distribue les chefs d'inculpation à tort et à travers sur la base d'interprétation. Le parquet d'Alger a quant à lui soutenu que les dossiers traités ne sont pas d'ordre politique et qu'aucun détenu politique n'est incarcéré dans sa juridiction.
Et pour terminer, Proche-Orient, le ministère turc de la Défense a annoncé ce mardi avoir achevé les préparatifs en vue de lancer une opération militaire contre une milice kurde soutenue par Washington dans le nord de la Syrie. C'est au fond de confusion à Washington quant à un éventuel feu vert du président Donald Trump à une telle incursion. Le président Trump a nuancé sa position lundi sous la pression internationale et de son propre camp et il a mis la Turquie en garde contre tout excès dans cette affaire.